Panorama économique.
Bienvenue messieurs, dames, à ce nouveau numéro de Panorama économique qui fait la rétrospective de toute l'actualité économique diffusée au cours de la semaine sur votre radio. Les titres avant de commencer. Le Premier ministre a répondu mercredi aux questions des députés nationaux, questions soulevées lors des débats qui a suivi la présentation du projet de budget 2015. Le projet de création des marchés financiers en RDC se porte bien, avait dit Matata Ponyo. 19 sites miniers identifiés dans le territoire de Banalia et de Bondo en province orientale. Le comité commis à ce service a bouclé sa mission. Reste maintenant à établir la cartographie de ces sites pour toute la province qui en compte une cinquantaine. Et nous reviendrons sur la journée de normalisation célébrée le 14 octobre. L'association pour la promotion de la normalisation et de la métrologie APRONEM a saisi cette occasion pour faire un état des lieux et nous en parlons dans ce magazine avec le président de cette organisation qui est notre invité, monsieur Bertin Toumba est avec nous. Monsieur Bertin, bonjour.
Bonjour monsieur.
Et devant ce micro, dans ce studio, Daniel Tambizoni, François Kadima, pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique de la semaine. François, bonjour.
Bonjour Daniel.
Panorama économique, le dossier.
Je l'ai dit tantôt, le 14 octobre, c'est la journée mondiale de la normalisation. Et l'APRONEM, je le disais, son président est avec nous dans ce studio. Monsieur Bertin, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Parlez-nous un peu, la normalisation, c'est quoi ?
La normalisation, c'est l'activité qui consiste à élaborer les normes, à les faire connaître et à les mettre en œuvre.
Mmh. Cela veut dire, en des termes clairs, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, ça peut consister en quoi ?
La normalisation, c'est une activité qui a trois attributs principaux. Mmh. Il y a d'abord le sujet, mmh. Il y a l'aspect, il y a le niveau. Le sujet, c'est toute question, toute problématique qui est récurrente, qui demande à ce qu'il y ait des repères, des références. Mmh. Et les références qui servent à mieux évaluer la conformité. On ne peut pas parler de conformité, là, il n'y a pas de repères. Et ces repères sont les normes. Donc c'est une activité importante qui s'exerce au niveau international, au niveau des régions et au niveau des pays.
Et voilà. Et au niveau international, voulez-vous nous parler des organismes qui s'occupent de la normalisation et au niveau interne, c'est quoi ? C'est vous, APRONEM ?
Au niveau international, la première structure organisée dans la matière, c'est la CEI, la Commission électrotechnique internationale, qui a été créée en 1906. Après, il y a eu ISO, qui est la plus grande organisation de normalisation aujourd'hui, qui a produit plus de 19 500 normes, qui a été créée en 1947, je disais, et qui s'occupe des normes de manière générale. Et il y a le Codex Alimentarius, qui a été créé à l'initiative de l'OMS et de la FAO, pour s'occuper des normes dans le domaine agroalimentaire.
Et au niveau national, nous sommes en RDC. Quelle structure doit, en principe, s'occuper de la normalisation en RDC ?
En RDC, il faut dire, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de lacunes dans la structuration de ce domaine, parce que sur le plan légal, cette activité relève du ministère de l'Industrie, mais dans ce domaine, il y a beaucoup d'intervenants, notamment l'Office congolais de contrôle, il y a le ministère de l'Industrie, bien sûr, il y a
recherche scientifique,
l'aspect scientifique. Vous savez, il y a dans le cadre du décret portant attribution des ministères, il y a des ministères techniques qui ont aussi la mission d'élaborer des normes dans leur domaine spécifique, comme le ministère.
Et vous aussi, vous intervenez dans ces domaines parce que vous êtes une association pour la promotion de ces normes. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de la normalisation au sein de RDC ?
Nous sommes une structure de mobilisation de la société civile pour mobiliser la population dans son ensemble sur l'importance stratégique de la normalisation comme outil même de consolidation de l'unité nationale, outil de protection des consommateurs.
Monsieur Bertin, si vous ne pensez pas que vous avez mal choisi la cible, ce sont les autorités du pays qu'il fallait peut-être sensibiliser, mobiliser, parce que c'est à eux de définir les normes du pays, ce n'est pas la population à le faire.
Vous avez raison. La normalisation ici est comprise comme étant une démarche concertée, consensuelle. Et pour que la normalisation atteigne son objectif, il faut donc garantir la participation de toutes les parties prenantes de la société. Le gouvernement a sa part, la société civile a sa part, les industriels ont leur part, les chercheurs ont leur part. Donc c'est une démarche concertée qui comprend et, le, et les institutions publiques, le gouvernement, les ONG, les associations de consommateurs, les entreprises de contrôle, toutes les parties intéressées par le sujet sont...
J'ai posé cette question parce que je sais qu'il y a une loi qui a été soumise, un projet de loi soumis au Sénat, mais qui jusque-là, lequel projet de loi jusque-là souffre dans son examen, même je pense bien qu'il n'est même pas inscrit à l'ordre du jour de la session actuelle au Parlement.
Vous avez raison. L'activité de normalisation a comme pilier une législation cohérente en matière de normalisation, qui garantit les principes sacro-saints de la normalisation qui sont la transparence, l'ouverture, le consensus, la neutralité. Vous voyez ça, ce sont des principes qui doivent être garantis par la loi. Donc je pense que la loi est très importante et vous faites bien de le rappeler.
Ok, pour toutes les dates internationales, mondiales, il y a toujours un thème à l'occasion. Et c'était quoi, si vous voulez bien nous rappeler le thème pour cette année?
Le thème de cette année était les normes créent les règles de jeu équitables.
Cela veut dire quoi? Vous avez compris quoi à travers ça?
La mondialisation aujourd'hui a induit un contexte de compétition internationale. Et dans cette compétition, il faut qu'il y ait des règles. Et l'établissement de normes, c'est un...
Par exemple, pour avoir un bon footballeur, pour donner des bons résultats, il faut qu'il mange autant de kilos de riz par jour. Ouais. Il faut qu'il dorme autant d'heures par jour. C'est ce que ça veut dire les normes.
Un petit exemple que je donne parmi les exemples que nous donnons souvent,
voilà.
C'est l'exemple du papier A4. Les dimensions sont connues. Ces papiers viennent de partout dans le monde, utilisés sur les imprimantes qui viennent de partout. Voilà un exemple important.
Donc vous dépassez les dimensions de papier A4, il n'est plus A4, il n'a pas de référence, voilà. Il n'est pas pris sur le marché.
Voilà.
Et nous vous gardons, monsieur Bertin, je dis que vous êtes notre invité dans ce studio pour commenter toute l'actualité économique de la semaine. La normalisation, nous avons planté les décors, alors nous allons prendre d'autres sujets de la semaine. Direction maintenant, Assemblée nationale. Les députés nationaux ont voté mercredi recevable le projet de budget 2015 que le premier ministre a soumis à leur examen, François.
Ce vote est intervenu après que Matata Ponyo ait répondu aux questions et observations soulevées par les élus lors de sa présentation lundi. Le chef du gouvernement a reconnu la pertinence des questions soulevées par les élus du peuple, notamment celles liées à la crédibilité du budget, avant de donner quelques précisions. S'agissant du projet de l'érection de marché financier en RDC, le Premier ministre a fait savoir que la Banque centrale du Congo est déjà très avancée sur ce dossier. Abordant la stabilité du cadre macroéconomique, Augustin Matata Ponyo dit ceci.
Le caractère inclusif de la croissance tient notamment au fait que la croissance profite à notre population de manière directe et indirecte. En atteste l'augmentation progressive de nos salaires au niveau de l'administration publique, ainsi que une forte augmentation du pouvoir d'achat de la population consécutive à la stabilité des prix intérieurs depuis bientôt plus de 5 ans. Aussi, nous devons citer la création d'emplois durables et l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la construction des infrastructures scolaires, la gratuité de l'enseignement primaire, la réhabilitation des centres de santé et des hôpitaux, la réhabilitation et la construction des infrastructures de base qui assurent la fluidité des activités économiques, favorisent les échanges et induisent un accroissement des revenus des petits commerçants et des paysans, autrefois exclus du marché formel, aussi la relance de l'agriculture. Voilà le caractère inclusif, honorable député, de la croissance de notre économie.
Augustin Matata Ponyo, c'était mercredi devant les députés nationaux, monsieur Bertin. Nous avions dit dans la définition, vous avez dit les normes ont la norme a trois composantes. Le sujet, est-ce que le budget aussi fait est un sujet et des normes?
Oui, j'ai dit que au départ la norme est basée sur le consensus. Il y a la structuration, la présentation du budget, il y a la présentation, il y a le contenu, il y a...
Et c'est ça la norme qu'il faut respecter quand on établit un budget?
Tout à fait, il y a des normes.
Vous êtes congolais, il s'agissait du budget 2015, le budget de la RDC, que le Premier ministre a présenté, les députés ont posé leurs questions, et le Premier ministre est allé répondre à ses préoccupations. Et parmi les réponses, beaucoup des réponses que Matata Ponyo a données, nous avions retenu l'extrait que vous avez suivi là, c'est-à-dire la croissance inclusive. Maintenant, les salaires sont en train d'augmenter. On a créé des écoles, on a construit des centres de santé. Donc, on est en train de permettre aux petites et moyennes entreprises qui étaient exclues du système bancaire de retrouver des financements. Comment vous avez accueilli, par exemple, cette, comment vous analysez cet extrait de réponse du Premier ministre?
J'ai trouvé cet extrait très, très, très intéressant, parce qu'il touche les aspects les plus sensibles de la société, notamment...
Et dans la matérialité, si c'est possible, ça?
Bon, je vous dis, le problème du Congo, c'est un problème très, très profond. Pourquoi? Parce que quand vous voyez même le niveau du budget par rapport à la population...
Il est faible.
Il est faible, c'est vrai. Mais il faut voir d'où nous venons. Pour un pays de 70 millions d'habitants, même 10 milliards, ce n'est pas suffisant. Mais moi, je pense que c'est déjà bon de miser sur une croissance à deux chiffres, qui est quelque chose de très important. Par rapport aux défis à relever, la tâche est immense. Mais je pense que, comme le philosophe le dit, la plus longue marche commence toujours par un pas. Et je pense que c'est un pas intéressant qui est fait.
C'est un pas intéressant. Deuxième dossier de la semaine. Les acteurs agricoles de la filière de manioc ont réfléchi lundi et mardi à Kinshasa pour étudier les perspectives d'installation dans la capitale d'une usine d'extraction de l'amidon. Les débats de la première journée avaient tourné autour de la baisse sensible de la production du manioc en RDC.
Celle-ci est passée de 20 millions de tonnes en 1999, à aujourd'hui donc 15 millions de tonnes. Pour les techniciens de l'Institut international d'agriculture tropicale, cela est dû non seulement aux maladies, à l'instar de la mosaïque et de la suture burne, mais aussi de la pauvreté du sol, des semences et l'inactivité de la science qui n'accompagne pas du tout l'agriculture. Le directeur général de Synergie Group, qui a été parmi les organisateurs de cette table ronde avec la néerlandaise de développement SNV, pense que malgré cet état de choses, l'installation d'une usine d'extraction de l'amidon à Kinshasa est possible. La secrétaire générale de l'association des producteurs et transformateurs du manioc est aussi optimiste quant à l'aboutissement de ce projet. Madame Espérance Belaou.
Et les deux jours ont été très intenses dans ce sens que la CIAO nous apporte une opportunité d'installation d'une usine de fraction d'amidon ici à Kinshasa. Et c'est très très important et ça peut être très bénéfique pour la République démocratique du Congo. Vous avez suivi l'intervention du Père Charles. Nous importons à l'auteur de presque 10 milliards chaque année en ce qui concerne le produit alimentaire. Or la EDC est capable de produire plus que ça pour nourrir pratiquement toute l'Afrique. C'est une contradiction. Néanmoins, avec l'installation de cette unité ici à Kinshasa, ça va permettre non seulement de réduire les importations d'amidon, parce que nous sommes vraiment demandeurs, parce que peut-être les communs de mortels de qui ne les connaissent pas, ça rentre dans l'industrie cosmétique, ça rentre dans l'industrie alimentaire, ça rentre dans l'industrie pharmaceutique, donc il y a vraiment une demande réelle.
Et vous êtes secrétaire général de l'APTM, ça veut dire quoi APTM et qu'est-ce que vous faites?
L'APTM, c'est l'association de producteurs et transformateurs de manioc. Nous avons une vocation nationale, pour le moment nous sommes très actifs à Kinshasa, Bakongo et Bandundu. Et ça rencontre notre vision, pourquoi? Parce que nous, dans l'APTM, nous voulons faire du manioc une matière première de l'industrie.
Toutes les intelligences ont été mises ensemble et vous pensez que c'est possible d'installer une telle industrie à Kinshasa?
C'est faisable avec la volonté. Vous avez vu qu'ils sont venus, la SNV avec la CIAO, ils sont venus avec l'approche multi-acteurs. Ça veut dire quoi? Il y aura les chercheurs, parce que pour qu'il y ait une bonne productivité, il faut que le chercheur nous donne le bonne bouture. En plus de cela, nous avons besoin des capitaux. Et dans les capitaux, il y a des souscriptions, il y a les banquiers, il y a les financiers, il y a même le donateur. Donc c'est faisable. Dans leur business plan qui est encore en phase préparatoire, c'est à peine 4000 hectares dont ils ont besoin et à peine 7 millions de dollars. Qu'est-ce que ça représente 7 millions si nous tous, nous mettons ensemble? Parce que le problème qui nous tue en RDC, on veut aller en singleton. Aujourd'hui, on appelle tous les acteurs de la filière manioc, venez ensemble, il y a une opportunité où tout le monde sera gagnant-gagnant.
Vous êtes à Kinshasa, dans le Bas-Congo et les Bandundu, ça représente combien de transformateurs et de producteurs?
Aujourd'hui, l'APTM, nous avons 38 grands producteurs de manioc. Quand on dit grands producteurs, c'est de là de 50 hectares et plus. Et nous encadrons plus de 5000 petits producteurs à travers les coopératives, à travers les OP, à travers les associations paysannes. Donc l'APTM, c'est une force dans ce qui concerne la filière manioc.
Et la récolte est bonne, comme nous dit le directeur général de Synergie Group, qui a co-organisé cette table ronde avec la néerlandaise de développement SNV. Plus de 2 millions de dollars sur un besoin en financement estimé à 10 millions ont été souscrits à Kitenge.
Je pense que nous sommes là dans des conclusions qui vont au-delà de ce que nous pouvions attendre. Laissez-moi vous surprendre, nous avons là une souscription pour 2 millions de dollars. Et j'en ai vu quelques-unes plutôt qui dépassent les 50 000 dollars. Ce qui veut dire qu'en fait, de manière tout à fait spontanée, les gens adhèrent à ce projet et ils y croient en ayant vu le potentiel et la pertinence. Je crois que la SNV et Synergy Group ont fait là un bon cap qui est très important et qui va nous permettre de finaliser le business plan et être en mesure d'avancer dans les différentes étapes.
Et dans le business plan, c'était quoi les estimations pour installer une usine d'extraction de l'amidon? C'était quoi le coût?
10 millions. Nous pensions pouvoir être en mesure de lever 10 millions et quand ça commence avec quelqu'un qui pose 2 millions sur la table, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les Congolais n'auront jamais arrêté de me surprendre.
Une usine pour extraire l'amidon à Kinshasa. Mais au cours des débats, on a déploré la baisse sensible de la production de manioc, M. Bertin. Le manioc, on est passé de 20 millions de tonnes l'an vers les années 90. Aujourd'hui, on est dans les 14-15 millions à cause des maladies qui détruisent le manioc. Vous pensez que c'est possible de remonter la pente?
Voilà un sujet qui justifie justement la pertinence d'une démarche normative. Tout le monde se connaît de l'importance du manioc.
Il ne faut pas produire n'importe comment.
On ne peut pas le produire n'importe comment pour augmenter la productivité. J'ai bien aimé tout à l'heure ce qu'on a dit, c'était une démarche concertée où on allait trouver des chercheurs, des opérateurs économiques. Tout le monde doit se retrouver pour faire face à cette problématique-là et pour mettre un terme à ce paradoxe d'un pays potentiellement riche avec des populations aussi pauvres. Donc là, c'est un problème important et l'aspect que j'ai aimé, c'est que on parle de toute la filière à développer parce que du manioc, on peut tirer des intrants pour les pharmaceutiques. J'ai vu aussi qu'on peut tirer des intrants pour les brassicoles et même
les cosmétiques.
Donc, ouais. Tout ça, c'est important. Et c'est ça, c'est un des sujets qui confirme la pertinence de la démarche normative.
Est-ce que vous pensez que la RDC a déjà entamé une démarche dans ce sens dans la filière de manioc en RDC? Est-ce qu'il y a des normes qui existent dans cette filière en RDC?
Je vous dis tout de suite qu'il n'y a pas
jusque-là, même pas un début.
Et toute l'Afrique centrale en souffre. Et je vous informe en passant que l'Afrique centrale, surtout francophone, c'est une des régions les plus en retard en matière de normalisation, à part le Cameroun qui a des normes en la matière. Je crois que c'est voilà un chantier important qu'il faut ouvrir.
Est-ce que vous avez une idée sur ce que dit la norme camerounaise en matière de manioc?
Oui, oui.
Comment produire, comment conditionner, comment expédier, comment commercialiser? C'est ce que dit la norme justement, je pense.
Tout à fait, mais j'ai pas eu le temps. J'ai vu les éléments de cette norme, mais j'ai pas eu le temps de pénétrer ça.
D'accord.
Donc on aura l'occasion d'en parler.
On vous garde avec nous le temps de prendre la suite de Panorama économique.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Kinshasa a habité cette semaine et pendant 3 jours, soit de lundi à mercredi, la 9e édition de Business to Business à l'hôtel Memling. Ce salon professionnel a réuni les entreprises qui offrent de biens et services à d'autres à travers des expositions et des conférences. D'après les organisateurs de ce salon, B2B est une opportunité offerte pour l'émergence de ceux qui sont dans le monde des affaires.
En province orientale, le bureau diocésain de développement de la Caritas Bouta est en pleine campagne de distribution des semences améliorées d'arachides et de maïs. Cette campagne a commencé depuis le mois de juillet dernier. Elle s'est faite avec les 25 tonnes d'arachides récoltées sur le 1500 kg de semences distribuées antérieurement et avec les 8 tonnes de maïs sur les 500 kg investis. Tout ceci est le fruit de la récolte réalisée pendant la saison A couvrant la période allant de mars à juin dernier.
Et nous nous rendons au Katanga pour parler de la reprise des activités commerciales dans la cité de Mitwaba, à plus de 450 km de la ville de Lubumbashi. La plupart des produits qui inondent le marché de Mitwaba proviennent des provinces du Nord et Sud Kivu, aussi de certaines villes du Katanga. Ces activités commerciales, disons-le, avaient connu un coup d'arrêt et étaient paralysées à cause de l'activisme des combattants Maïmaï.
Nous allons rester au Katanga, mais cette fois-ci à Kolwezi, où les entreprises minières sont appelées à augmenter les taxes et redevances pour le développement de cette partie de la province. C'est l'appel lancé par le président de la plateforme des organisations minières du Katanga à l'issue de la cérémonie des restitutions de la publication du rapport 2011 de l'ITIE à Kolwezi. Jean-Marie Kabanga propose de dépasser le 703 millions de dollars de taxes payées en 2011 pour les 20 entreprises installées à Kolwezi.
Panorama économique, matières premières.
Les matières premières nous connues en province orientale où le comité provisoire des suivis des activités relatives à la certification de minerais, la qualification et la validation des sites miniers vient d'élaborer la cartographie des sites miniers des deux territoires, à savoir Banalia dans le district de la Tchopo et Bondo dans le Bas-Ouélé. Au total, 19 sites miniers identifiés dans ces deux entités. L'élaboration de la cartographie de ces différents sites s'est fait progressivement. Dans l'ensemble, ce sont 50 sites miniers qui doivent être identifiés et validés pour toute la province orientale. Paulin Odiane, ministre provincial de Mines et président de ce comité provisoire, explique les critères retenus pour la validation des sites miniers ainsi que la nécessité de cette opération. Il est au micro de Godelive Omondo.
Premier des critères, c'est de voir s'il n'y a pas de groupes armés, c'est-à-dire les forces négatives ou soit les forces loyales, ou également on peut se retrouver devant une situation où il y a la présence accrue des enfants dans les sites miniers ou des femmes enceintes et tout. Donc ces conditions éliminent carrément les sites miniers à être élus comme un site vert. On doit également vérifier si les site minier en question n'est pas sur un périmètre d'un opérateur minier. Dans les cas contraires, il faudra impérativement avoir un contrat avec cet opérateur minier qui a un titre sur le site à visiter. L'objectif poursuivi, c'est de tracer les minerais. On doit suivre les minerais depuis jusqu'à la phase finale, c'est-à-dire ici à l'acheteur final, pour voir si les minerais ne proviennent pas des activités négatives, ces groupes armés qui pillent de gauche à droite et qui vivent de ça et qui alimentent les guerres de gauche à droite. Le souci, c'est d'éviter tout cela. Et le deuxième souci, c'est aussi de permettre à l'État congolais de bénéficier de l'exploitation minière, parce que tout est sorti, on nous procure de l'argent provenant des taxes que sur ces minerais qui sortent. Donc ça va nous aider à avoir les moyens de notre politique.
Et sachez que cette opération est menée dans le souci de faire respecter la mise en œuvre des mesures destinées à combattre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, décourager l'exploitation des minerais de sang. Et pendant ce temps, à Mitwaba, dans le Katanga, le prix de la cassiterite, on nous signale, est revu à la baisse de 5 000 voire 6 000 francs congolais le kilo il y a quelques semaines. La cassiterite se négocie actuellement entre 2500 et 1500 francs congolais. Les responsables des comptoirs d'achat de ce produit attribuent cette situation à la baisse des cours des métaux sur le marché international. Les autorités de Mitwaba craignent que cette situation n'influe négativement sur l'économie locale. Entre-temps, déjà, certains criseurs artisanaux désertent les carrières minières. Et c'est le dernier virage de panorama économique. Monsieur Bertin Ntumba, vous êtes avec nous. Vous êtes le président de l'APONEM, l'Association pour la promotion de la normalisation et de la métrologie. Un petit mot à placer sur la suite de l'information de la semaine avant que vous nous dites un mot sur la métrologie et qu'on termine l'émission.
Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les informations sur dans le secteur minier. Voilà encore un secteur qui demande d'être suffisamment normalisé, notamment sur les aspects liés aux conditions de travail et tout ça. Donc voilà un secteur important qui demande vraiment d'être de faire l'objet d'une bonne normalisation.
Et je reviens encore à charge. Est-ce que dans le secteur des mines en RDC, il n'y a toujours pas un débit de normalisation?
En tout cas, je vous informe qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo a 217 normes.
217.
Oui.
Dans quel secteur, par exemple?
Dans le secteur agroalimentaire, dans le domaine... c'est principalement le secteur agroalimentaire. Et c'est des normes tirées de normes du COMESA.
Un peu de copier-coller de ce qui est fait dans le COMESA ou quoi?
Bon, il y a eu une commission technique qui avait été instituée en même temps. Et justement, ces normes souffrent de l'absence d'une relecture, d'une mise à jour.
Parlons un peu de l'APRONEM dont vous êtes président. Bon, ça fait... si je ne m'abuse, ça fait 10 ans qu'APRONEM existe. De toutes les activités que vous avez menées, s'il faut faire une évaluation aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez? De quoi vous pouvez vous taper la poitrine aujourd'hui comme résultat?
Ok, il faut dire que nous avons mené des campagnes de sensibilisation dans les institutions d'enseignement.
Vous avez été compris?
Oui, nous avons été compris. Et la plus grande action que nous avons menée, c'est les 2 journées de réflexion que nous avons organisées sur invitation du président du Sénat en 2011, et nous pouvons considérer que l'actuelle proposition de loi est une retombée positive de notre campagne, parce que là je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter l'auteur de cette proposition de loi pour dire qu'elle avait pris en compte tout ce que nous avons fait comme plaidoyer au Sénat en 2011.
Nous avons parlé avec vous au courant de la semaine. Vous avez dit que la RDC a intérêt à travailler ardemment sur ce chapitre en ce qui concerne les normes, parce que si elle ne le fait pas, elle sera un déversoir, un dépotoir pour ces pays voisins neufs qui pourront déverser les produits qui ne seront pas acceptés chez eux sur leur marché parce qu'elles ne respectent pas les normes.
Je disais aussi que l'activité de normalisation était importante pour toute société. Ça lui permet de se projeter sur le commerce international, dans le commerce international, en maîtrisant les règles, les principes de ce commerce, et se protéger la population contre les produits de consommation, les produits de qualité douteuse. Alors aujourd'hui, je dis que le contexte de mondialisation est un contexte qui joue sur la compétitivité.
Ouais.
Mais pour être compétitif, il faut connaître les règles de la compétition. Donc avoir la maîtrise des produits qu'on a appelé à vendre.
Vous voyez que la RDC produit le manioc, mais le manioc de la RDC ne peut pas être vendu en Thaïlande. La Thaïlande qui produit également le manioc, mais le manioc de la Thaïlande peut être mangé accepté sur le marché congolais, mais celui de la RDC ne peut pas être accepté en Thaïlande faute des normes.
Ça, ce sont les principes sacro-saints de l'Organisation mondiale du commerce, qui a publié un répertoire qui prend les pays qui sont en train d'appliquer les accords sur les autorités techniques au commerce relatifs à la normalisation. Et le Congo ne figure pas sur cette liste, malheureusement.
Mais est-ce qu'il y a des sanctions qui peuvent suivre les pays qui ne s'activent pas dans la normalisation?
Ça, c'est une démarche qui procède de la volonté des acteurs. Vous voulez l'animation, c'est une démarche volontaire. Vous avez des défis en vue, vous devez vous préparer à affronter ces défis. Vous vous mettez ensemble pour établir ces normes-là. J'ai dit que les normes, par principe, sont d'application volontaire.
Merci. Un mot de la fin, M. Bertin.
Tout à l'heure, pour revenir au manioc, vous m'avez posé la question sur ce que peut contenir une norme sur le manioc. Je vous ai dit que les normes, toute norme a un aspect, un niveau. Et les aspects qui peuvent être pris en compte dans le cadre du manioc, c'est notamment les aspects liés à la classification. Il faut avoir les caractéristiques du manioc. Les aspects liés, par exemple, aux méthodes d'essai. Et c'est les aspects liés, par exemple, au temps de ruissage. Et tout ce qui va dans le sens de garantir la qualité de ce manioc.
Merci beaucoup, monsieur Bertin Toumba, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir commenté cette actualité de la semaine sur Radio Okapi. C'était Panorama économique, la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à vous, monsieur Bertin.
C'est vous que je remercie pour votre invitation.
Et François, le prochain rendez-vous avec l'actualité économique sur Radio Okapi.
Voilà, c'est chaque semaine. Retrouvez-nous lundi à 18h15 pour notre journal économique sur Okapi.
Et retrouvez Panorama économique toute la semaine sur www.radiookapi.net. Vos suggestions et vos critiques, vos commentaires sont les bienvenus. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.